En préparant cet évangile et les autres lectures pour les partager avec vous, j'ai repensé à l'échange de regards que l'on a lorsque l'on entre en maison d'arrêt et que l'on croise les personnes détenues. Surtout si on est appelé à avoir une conversation avec elles dans leur cellule ou au moment de la messe. Il se passe quelque chose à ce moment-là qui interpelle les deux personnes qui se regardent. Celui qui est détenu, il est pris par un certain sentiment de gêne, de honte, d'être connu là. Et celui qui arrive de l'extérieur, il faut qu'il se situe avec cette situation particulière de rencontrer quelqu'un qui a été condamné ou en attente de jugement. En se disant que dans le fond, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on inverse les rôles. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que le psaume nous parle de Dieu qui montre le chemin aux pécheurs. Et sa justice, sa sainteté dirige les humbles. Autrement dit, Dieu essaye de nous montrer le chemin. Mais est-ce que nous le suivons? Ce n'est pas toujours le cas. Le prophète Ézéchiel compare la conduite du Seigneur et la conduite des hommes. D'un côté, la justice, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, conduit à la vie, tandis que le mal conduit à la mort. Donc, nous sommes interpellés. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons sauver notre vie? Assurément, oui. Et alors, il faut se rappeler qu'on est jugé non pas sur le point de départ, mais sur le point d'arrivée. Cela nous rappelle les ouvriers de la 11e heure de dimanche dernier. Pour marcher sur ce chemin de justice et de sainteté, Paul nous recommande de ne pas être d'abord à l'écoute de nos intérêts particuliers, de ne pas être intrigant ni vaniteux. C'est parfois des choses que l'on croise même dans les paroisses. Au contraire, il s'agit d'avoir les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Donc il y a un travail de construction à faire qui est celui de l'unité. Pour ça, il me semble qu'il faut accepter certaines concessions. À partir du moment où on travaille ensemble, on œuvre ensemble à la mission, il faut aussi prendre sur soi. Il faut être capable de s'effacer quand c'est nécessaire et apporter aussi ce dont on est capable. Il y a une mise en œuvre de l'unité qui est à faire par chacun. Et c'est d'autant plus important que c'est notamment là-dessus que les autres nous regardent. La qualité d'amour qui règne entre nous. Jésus est notre grand modèle de celui qui s'abaisse en faveur des autres. Il donne sa vie et en retour, il est exalté. C'est cette humilité du Christ qu'il nous faut imiter. Alors, pour nous faire entrer davantage dans ce chemin de justice, et pour aider aussi ses auditeurs, qui sont des pharisiens, Jésus raconte une petite parabole. Quel est votre avis? Jésus suscite notre adhésion, notre intérêt pour cette histoire qui nous concerne. Il y a le premier enfant qui dit « je ne veux pas » d'emblée. Ce refus catégorique et plutôt grossier à l'égard du Père, comme s'il ne reconnaissait pas le Père. Le second, lui, est très révérencieux. « Oui, Seigneur. » Mais il ne fait pas. Ce Seigneur laisse entendre que le Père est bien Dieu le Père et que c'est par rapport à lui que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'accomplir la volonté du Père, comme nous le demandons dans la prière du Pater, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Si nous le demandons si souvent, c'est parce que ça n'est pas si facile que ça à accomplir. Et il y a, pour tous ceux qui ont en charge des enfants ou des jeunes, tout un travail patient mais fructueux pour éduquer à l'obéissance. Lorsque je visite des familles, ça m'arrive parfois de croiser des enfants à qui on laisse tout faire. Et pour le coup, ils flottent, les pauvres. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais de limite contre laquelle sentir où ils doivent s'arrêter. Alors ils sont un peu perdus. Éduquer à l'obéissance, c'est évidemment coûteux pour les parents parce qu'il faut tenir sans s'énerver. Mais c'est très fructueux. Parce que c'est ce qui va permettre à nos jeunes d'apprendre à tenir une parole, à entendre une parole et à la mettre en œuvre. Ça suppose aussi que celui qui demande l'obéissance soit cohérent avec sa demande. Autrement dit, que lui-même cherche aussi à accomplir la volonté du Père. Cette volonté, nous la connaissons par les commandements que nous donne la révélation, mais aussi par les appels intérieurs et souvent aussi extérieurs que nous recevons lorsque notre devoir d'État nous appelle à nous occuper de telle ou telle personne, à faire ceci ou cela. Il y a pour chacun de nous une part d'obéissance aux événements qui nous rapproche du bien de Dieu. Parmi les appels extérieurs, je pense en particulier à tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre en situation de pauvreté. Ces jours-ci, nous avons fêté Saint Vincent de Paul, qui disait que les pauvres sont nos maîtres. Leur situation nous commande d'agir et d'apporter des solutions. Jésus va assez loin, puisque aux pharisiens qui sont des observants scrupuleux, il affirme « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ». On peut penser parmi les publicains à saint Matthieu, l'apôtre, l'évangéliste, qui était publicain, collecteur d'impôts, et qui deviendra un des 12. Parmi les prostituées célèbres de l'évangile, il y a Marie-Madeleine. Ces gens-là ont entendu l'appel à la conversion et y ont répondu passionnément, jusqu'à miser toute leur vie sur Jésus. Et c'est ce que Jésus pointe avec les pharisiens. Il y a eu l'appel du Baptiste, le précurseur, qui a annoncé la venue du Christ. Et il y a des gens qui ont écouté, tandis que ceux qui croient savoir n'ont pas bougé. C'est là où la parole nous interpelle aussi. Il y a toujours un risque lorsque on a pris un certain rythme de croisière dans la foi, qu'on est devenu pratiquant, qu'on a une foi assez solide, voyez, une fois qu'on est là, de s'installer dans cette situation. Et finalement, on n'est plus trop souple aux appels supplémentaires que le Seigneur nous lance. Et il faut faire attention à cet engourdissement qui risque d'arriver. Donc il faut se donner des possibilités d'évoluer. La première, c'est la prière. Si je prie, Dieu va pouvoir me toucher. Et dans le silence, je vais pouvoir relire ma vie pour entendre les appels de Dieu. Entendre aussi à la lecture de la parole qui m'interpelle, qui me fait aller plus loin. Et puis, je vais avoir à m'entraîner à ajuster le dire et le faire, ce que je crois et ce que je fais vraiment dans ma vie. Si j'ai ce regard à l'intérieur de moi, cette relecture, je vais discerner ce qui a besoin d'être émondé dans ma vie et ce qui a besoin au contraire d'être développé pour répondre à la parole de Dieu. Il y a aussi le sacrement de réconciliation qui m'aide à enlever le péché de ma vie et à recevoir la grâce. C'est tout ce mouvement de l'humilité du Christ dont nous parlait saint Paul dans la deuxième lecture, dans lequel je suis appelé à entrer, à m'abaisser pour être exalté par la grâce. Et c'est notamment ce qui se passe ici, dans la messe, où Jésus vient au-devant de nous, il vient en nous pour que nous soyons en lui. Et c'est en absorbant le Christ comme une éponge qui boit l'eau que nous pouvons ensuite le porter à nos frères et sœurs. Amen.